temps plein, plateau sciences, santé, environnement. C'est maintenant au docteur David Fortin de se faire plaisir, de parler de quelque chose que vous aimez beaucoup. Hein. Je pense que c'est un sujet qui vous fascine en tant que neurochirurgien. C'est la question de la conscience. Qu'est-ce qui donne la conscience aux êtres humains dans le cerveau?
Et je vous fais l'annonce tout de suite qu'on ne pourra pas répondre à cette question-là ce matin. Je m'adresse d'abord aux auditeurs. J'espère que vous avez plus d'un café dans le corps. Donc, on se lance. Évelyne et Noémie, je vous pose la question.
Attendez, je me resserre, là. Vas-y.
Allez-y, prenez une bonne gorgée.
C'est bon. Ah oh, non, j'en ai plus. OK.
Donc, Évelyne et Noémie, connaissez-vous, comprenez-vous un peu ce qu'est la physique quantique?
Je sais que c'est de l'infiniment petit. Au-delà de ça,
je m'y suis attaquée à quelques reprises dans mon passé de journaliste scientifique, mais c'est de loin une des sciences les plus complexes à laquelle j'ai eu affaire,
En fait, à cette question-là, il faut répondre non. Il faut répondre non parce que Richard Feynman, qui en 1965 a gagné le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la mécanique quantique, a déclaré lors de la réception de son prix. Je pense que l'on peut affirmer sans prendre de risque que personne ne comprend la mécanique quantique. Bon. Donc, la mécanique quantique, c'est quelque chose de particulièrement énigmatique. La physique quantique a pris naissance, si vous voulez, au début du 20e siècle, fondée par Max Planck, pour expliquer certains phénomènes que la physique classique peinait à expliquer. Nous, on va se centrer sur une des caractéristiques de la physique quantique qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Puis, de manière simplifiée, c'est quoi cette histoire-là? Ça dit simplement entre parenthèses, qu'une particule se comporte comme une onde de probabilité, et ce, jusqu'à ce qu'on tente de l'observer, ou même qu'on pense à l'observer.
Bon, ça veut dire quoi, ça?
Ben, c'est-à-dire qu'on veut comprendre comment un proton, où un proton va se diriger. Lorsqu'on déploie la mécanique pour observer le proton, là, le proton va se mettre à adopter le comportement d'une particule. Il va perdre sa capacité ondulatoire. La capacité ondulatoire étant simplement l'idée que, du point de vue statistique, la particule peut adopter tous les possibles imaginables, c'est-à-dire la vitesse, la trajectoire, etc. Et là, elle se comporte comme une particule précise, uniciste et qu'on est capable de mesurer.
D'accord.
Donc, on retient ça pour la suite. Et là, on passe à la conscience. Quand on parle de conscience, le contexte est toujours nébuleux. Je vous dirais d'entrée de jeu que pour moi, la conscience, c'est un sujet qui louvoie entre la science et la philosophie. Et pour les raisons que je vais vous énumérer un peu plus loin, je pense que la philosophie, pour l'instant, a le haut du pavé sur la question de la conscience. Alors, on ne sait toujours pas si la conscience est produite dans notre cerveau. On ne sait toujours pas si les neurones produisent la conscience. On n'est même pas capable de répondre à cette question-là. Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'énigmatisme de la conscience, on se projette en 1998. On est à un congrès sur la conscience et il y a deux personnages très célèbres et toujours célébrés dans le monde de la conscience. Donc, le neuroscientifique Christof Koch et le philosophe David Chalmers qui, en fait, vont faire un pari. Donc, on est en 1998 et le Dr. Koch va dire au philosophe Chalmers, je te parie que dans 25 ans, on va avoir découvert les secrets de la conscience. On va comprendre ce que c'est, on va savoir comment c'est produit. Or, les 25 ans aboutis, nous sommes maintenant en juin 2023 et devinez qui a reçu de l'autre une caisse de vin en prix du pari. C'est notre ami Chalmers qui est venu cueillir sa caisse de vin des mains du neuroscientifique qui a perdu le pari parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'est la conscience.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est si difficile à saisir, David?
Bien, on pourrait le résumer justement en utilisant les termes de Chalmers, le philosophe, qui a parlé de la conscience comme étant, en anglais, « the hard problem », le problème difficile en français. La difficulté consiste à prendre quelque chose qui est purement subjectif et à l'attacher à quelque chose d'anatomiquement objectif comme des neurones ou un processus physiologique X, ce qu'on est toujours incapable de faire. Et là, entre en scène notre prochain protagoniste qui s'appelle Stuart Amroff, qui est un anesthésiste qui travaille en Arizona. Dr. Amroff, toujours fasciné par la conscience, rencontre le président du département d'anesthésie là-bas, à qui il confie cette passion-là, et lui de lui répondre: et si vous voulez comprendre la conscience, découvrez donc comment fonctionne l'anesthésie parce qu'on n'en a toujours aucune idée. Quand vous y pensez, l'anesthésie, c'est fascinant. Hein? On administre soins volatiles, soit un produit intraveineux et ont réussi à faire perdre temporairement la conscience à un être humain ou à un animal.
Et encore plus, hein, l'horloge biologique, toutes les fonctions, finalement, s'arrêtent.
Bien, ils ralentissent. Je ne dirais pas s'arrêtent, mais ralentissent, oui, effectivement.
Sinon, on les tuerait, hein, vous avez raison.
Oui, tout à fait. Là, notre ami Amroff se dit, bien, je vais très bien, moi, je vais faire de la recherche là-dessus. Puis en faisant sa recherche, il découvre que la majorité des anesthétiques, des produits anesthésiques, produisent un effet sur une petite particule qu'on retrouve dans les neurones et dans tous les cellules du corps, en fait, qu'on appelle les microtubules. Les microtubules, c'est des particules qui font partie du cytosquelette de la cellule, qui donnent la forme de la cellule et qui vont être aussi impliquées lors de la division cellulaire. Mmh. Et lui, il découvre que les anesthésiques ont un effet direct sur les microtubules. Et il se met à étudier ça plus à fond et se demande, est-ce que c'est possible que les microtubules soient les unités de base qui produisent la conscience? Et là, je le cite. Donc, ouvrez les guillemets. Comment tout ce traitement de l'information qu'est la conscience peut être produit par les microtubules? Comment cela pourrait-il expliquer l'envie, la cupidité, la douleur, l'amour, la joie, l'émotion, la couleur verte? Je n'en ai aucune idée. Il poursuit ses recherches, et dans le cadre de ses recherches, il lit un livre écrit par notre prochain protagoniste, Dr. Roger Penrose, qui est un physicien anglais. Ce livre, qui s'appelle « The Emperor's New Mind », a changé la vie du Dr. Amroff. C'est un livre qui a été écrit en 1986. Dr. Penrose, c'est un... Pardon, 1989. Dr. Penrose, c'est un grand nom en physique. Hein, c'est un type qui a gagné le prix Nobel de physique en 2020 pour ses travaux sur la formation des trous noirs. Oh. C'est un grand nom en physique, c'est un grand nom en mathématiques, et il s'est mis à s'intéresser à la conscience. Et dans son livre « The Emperor's New Mind », publié encore une fois en 1989, il a plongé tête baissée dans le domaine théorique de la conscience humaine. Pour conclure que, en utilisant un théorème postulé par un mathématicien qui s'appelle Kurt Gödel, qu'on appelle le théorème d'incomplétude, qui est supposément, moi je ne suis pas mathématicien, mais supposément un des plus beaux théorèmes de toute l'histoire des mathématiques.
Oui. Bon. On se fie sur vous, hein? Nous non plus, on n'est pas des grands mathématiciens.
En essence, ce que ce théorème disait de manière simplifiée, c'est que les règles à l'intérieur d'un système donné ne peuvent être prouvées à l'intérieur de ce même système. Il faut pouvoir sortir de ce système-là pour prouver ces lois-là. Et à l'aide de calculs très complexes, notre ami Penrose soutient que l'esprit humain, qui dépasse les systèmes existants pour faire de nouvelles découvertes, est de ce fait non algorithmique, non calculable, c'est-à-dire non explicable par la physique actuelle et les mathématiques, et doit donc obligatoirement être potentiellement quantique. Oh. Et donc, notre ami Amroff qui lit ça se dit, « Wow, c'est intéressant. » Surtout que Penrose, dans son livre, explique ce phénomène-là tout en disant, « Je n'ai aucune idée de ce qu'est le substrat physique dans le corps des animaux. » De où peut se produire ce phénomène quantique-là.
Oui, bien, c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est qu'on a un organe qui va faire la digestion, on a un organe qui va être, par exemple, le sens du toucher, ça va être la peau, mais dans ce cas-ci, on ne sait pas du tout où est produite la conscience.
Tout à fait, on n'a absolument aucune idée. Et là, notre ami Amroff qui lit ça dit, mais moi, je le sais où ce phénomène quantique-là se produit. Ça se produit au niveau des microtubules.
Oh,
parce que les microtubules ont une genre de forme périodique qui permet la tenue potentielle de phénomènes quantiques. Alors, sans faire ni un ni deux, Amroff prend l'avion, traverse l'Atlantique, va retrouver Penrose et les deux vont pondre ensemble cette théorie qu'on appelle la théorie ORC-OR, qui est la théorie de réduction objective de l'onde quantique qui se produirait au niveau des microtubules. Cette théorie-là, elle est publiée en 1996 dans une revue qui s'appelle « Mathematics and Computer and Simulation ». Et dans cette revue-là, ils vont détailler dans un article extraordinairement complexe comment le phénomène quantique de réduction de l'onde peut se produire au niveau de tous les microtubules qu'on a dans notre cerveau pour donner aux êtres vivants la conscience.
Et les microtubules, là, pour qu'on comprenne, il y en a beaucoup dans le cerveau?
Ah, il y en a plusieurs milliers dans chaque cellule.
Oh.
Des fois, des dizaines de milliers dans chaque cellule. Donc, il y en a énormément. C'est un ordre de grandeur là, de 10 à la 9 dans une tête complète.
Wow!
Donc, oui, il y en a énormément. Et on évoque la possibilité que ces microtubules-là puissent être les unités de calcul quantique, si vous voulez, dans le cerveau. Mais là, évidemment, la théorie sort en 1996 et il y a de nombreux opposants qui se manifestent. Puis la raison pour laquelle les opposants se manifestent, c'est qu'une critique majeure qui est évoquée lorsqu'on parle de phénomènes quantiques, c'est que ces phénomènes-là, si vous lisez n'importe quelle littérature sur les ordinateurs quantiques, on va dire les conditions de laboratoire sont dans des pressions très contrôlées et dans des froids absolus.
Oui, ah ben oui, il faut refroidir absolument, là. Oui, c'est vrai.
Tout à fait. Or, le cerveau est tout le contraire de ça. C'est chaud, c'est humide, puis c'est bruyant. Donc, les gens disaient, ben voyons donc, les phénomènes quantiques dans le cerveau, ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, un des critiques les plus fervents, c'est le regretté Stephen Hawking qui a dit à Dr. Penrose, « Ouais, mon vieux, t'es en train de tomber un peu dans l'ésotérisme. »
Ah, oh! Ça, et c'est une vraie critique très acerbe. Hein? Oui, oui. L'ésotérisme pour un scientifique primé de Nobel, en plus, là, c'est quelque chose.
Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que quand on parle de conscience, on louvoie souvent entre la science et la philosophie.
Mm.
Et donc, dans les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette théorie-là a fait son chemin dans les médias plus populaires, comme je le mentionnais tantôt, Popular Mechanics puis New Scientist, bien, c'est qu'effectivement, il y a des théoriciens et il y a des expérimentateurs qui ont réussi à identifier des phénomènes quantiques dans le vivant. Noémie, tantôt, a parlé de la photosynthèse. Or, ce sont des phénomènes quantiques qui sont à la base de la photosynthèse. De même, les oiseaux qui utilisent le champ magnétique pour se diriger. Encore une fois, à la base de ça, il y a des phénomènes quantiques qui sont à mettre en évidence. Et dernièrement, l'année dernière, il y a deux équipes, une équipe de Hong Kong et une équipe américaine qui ont réussi à prouver que la tenue de phénomènes quantiques dans les microtubules du cerveau était plausible. Ce n'est pas à dire, évidemment, que la théorie telle que stipulée par Roger Penrose et Stuart Amroff est véridique, mais les chercheurs de l'Université Harvard ont détaillé des effets quantiques qui impliquent les microtubules, ce qui rend néanmoins plausible cette théorie-là.
D'accord.
Pourquoi c'est important? Je finis là-dessus, là. Pourquoi c'est important?
Ben oui, pourquoi c'est important?
C'est important parce qu'il y a deux grandes écoles de pensée en ce moment qui se battent pour essayer d'expliquer la conscience. La première, c'est celle qu'on vient de discuter. Puis la deuxième, c'est une école qui est plus compucentriste, qui est plus algorithmique, qui stipule que le cerveau fonctionne de manière algorithmique, qu'on va réussir éventuellement à résoudre ces algorithmes-là et qu'on pourrait donc, de par le fait même, reproduire une forme de conscience dans un appareil cybernétique.
Alors
que Dr. Penrose dit, ben non, c'est impossible, ça va jamais arriver. Donc, vous avez ces deux visions-là qui s'opposent et c'est un débat qui est franchement extraordinairement intéressant, surtout avec la popularité qu'a pris l'intelligence artificielle et les grands modèles linguistiques qui sont en explosion dans les dernières années.
Ah oui, 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 vous faites bien de le mentionner. La conscience quantique.
Ouais.
Vous savez que 2025 est l'année internationale du quantique. Hein? Ça nous donne un an pour essayer de comprendre.
En tout cas, on a...
Je pense pas, Noémie, qu'on va avoir la réponse dans la prochaine année, mais je l'espère bien.
On a un diplômé en philosophie qui nous écrit « Cette chronique est du bonbon ». Ah, il y a des philosophes à l'écoute, oui, qui vous félicitent pour cet effort de vulgarisation. C'était pas facile, mais vous nous avez tenus par la main, David, puis je vous félicite parce que, franchement, c'est réussi. On a compris que les microtubules, c'est quelque chose à surveiller dans les prochaines décennies.
J'avoue que j'avais peur de me casser les dents ce matin.
Ah, pour vrai? Même vous? Mais non, vous avez très, très bien réussi. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier tous les deux parce que Pénélope, édition des fêtes, ça se termine vendredi. C'était donc votre dernière participation à l'émission. Et je tiens à souligner l'excellence de votre travail semaine après semaine. Docteur David Fortin, merci. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien et professeur au département de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup.
Merci à toi, Evelyne.
Et bon pelletage à Sherbrooke.
Ouais.
Noémie Larouche est journaliste scientifique, mais également directrice éditoriale aux éditions La Presse. Merci infiniment. Vous retournez à votre petite fermette?
Oui, ce week-end seulement.
Ce week-end. Mais ce sera un plaisir de vous retrouver à un autre moment sur nos ondes, sur Ici Première. Portez-vous bien.
Avec grand plaisir. À bientôt. Merci.